Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Depuis les propos jugés discourtois du président français, c'était le 22 février dernier, hein, le ton monte entre Paris et Yaoundé. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler la nature de ces relations ?
Les relations entre Paris et Yaoundé ont toujours été très compliquées, en particulier depuis la tentative de coup d'État de 1984, où finalement le président Paul Biya avait eu l'impression que la France soutenait toujours l'ancien président Amadou Ahidjo qui aurait voulu reprendre le pouvoir. Et c'est vrai que depuis la période depuis 1984, hein, ça veut dire ça remonte loin, le président Paul Biya a toujours été, toujours regardé Paris avec une certaine méfiance, et la preuve, il a quand même été chercher les Israéliens pour assurer sa sécurité et toute une partie de son renseignement.
On a aussi remarqué que peu de présidents français se sont rendus au Cameroun en visite officielle. Hein.
Finalement, la grande visite, ça remonte même à 1981, c'était vraiment avec François Mitterrand. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a toujours eu des relations extrêmement compliquées à partir du moment où, dans ce qu'on appelle tout le milieu de la France-Afrique, il y avait toujours un attachement un peu ancien à l'ancien président Amadou Ahidjo, qui finalement, dans les cendres, qui avait été exilé au Sénégal. Et c'est vrai que les Français ont toujours eu, en tout cas dans les milieux politiques, une certaine, c'est pas une défiance, mais vis-à-vis de, il n'y a aucune proximité vis-à-vis de la classe politique française. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du business et des affaires, Vincent Bolloré en particulier a quand même eu jusqu'à ce jour, même si maintenant c'est compliqué, a toujours eu les principaux contrats sur le port de Douala.
Oui, les deux pays ont également des relations tumultueuses qui remontent au début des années 60, hein, pendant la période coloniale.
Alors oui, c'est le pays qui a le plus qui a le plus subi finalement. Au niveau d'à partir du moment où la France voulait absolument l'armée française vis-à-vis de l'irrédentisme camerounais de l'UPC, Union de Population du Cameroun. Et c'est vrai que là, il y a eu une violence et un certain nombre d'assassinats. Et c'est vrai que c'était dans toute cette région entre l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale, ça veut dire dans toutes les anciennes colonies, c'est là où il y a eu le plus de sévices de l'armée française, de répression de l'armée française. C'était vraiment au Cameroun, qui a toujours été, il faut pas oublier non plus, un pays qui était à l'origine une colonie allemande, mais ensuite qui était séparé entre un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone.
Mais sans exagérer, hein, beaucoup de Camerounais nourrissent aussi une certaine prévention contre les Français.
Oui, il y a une prévention aussi, bien sûr, des Camerounais qui datent de cette période. Et en même temps, c'est certain que la France est toujours des relations très compliquées avec le Cameroun, parce que le Cameroun, ça reste quand même un pays, pas simplement économique, mais un pays stratégique, compte tenu de sa position vis-à-vis du Tchad et de la Centrafrique. Et on voit bien que même l'armée française a absolument besoin du Cameroun à partir du moment où le port de Douala est utilisé pour acheminer l'ensemble de l'armement au Tchad, et le Tchad étant la plateforme de toute opération Barkhane dans le Sahel. Donc on voit que la France habituellement vis-à-vis du Cameroun est toujours très prudente, et on voit bien que finalement Emmanuel Macron, il s'est fait un peu quelque part dans le feu comme ça de la salon de l'agriculture, il s'est fait un peu pousser à la faute en répondant à un opposant camerounais d'une façon très rapide et de tout ce qu'il faisait d'une façon un peu secrète pour vis-à-vis des sociétés civiles et vis-à-vis des oppositions qui est camerounaise. À mon avis, c'est pour ça qu'il y a une réaction pas vraiment vive, mais une réaction d'agacement très vive du côté de Yaoundé.
Et comment expliquer le fait que la France n'a toujours pas réussi à ramener dans son giron, hein, le Cameroun comme elle le fait avec le Tchad, le Gabon ou d'autres pays du précaré?
Ben, le Cameroun n'a jamais été les présidents. Bon, depuis finalement la disparition d'Amadou Ahidjo, c'est vrai que le Cameroun est resté un pays très particulier. Ça veut dire qu'il n'a jamais été complètement dans l'orbite de la France. On a expliqué d'abord parce qu'il y a eu cette partie anglophone. C'est vrai que la France a toujours protégé le Cameroun vis-à-vis du Grand Nigeria, en particulier dans tout ce qu'il y a, quand il y a eu toutes les négociations sur la presqu'île, la péninsule de Bakassi. C'est vrai qu'avec la frontière, la France a aidé le Cameroun à récupérer cette éponge pétrolière de cette région qui était avant au Nigeria. Mais sinon, le Cameroun a toujours été en marge de ce qu'on appelle le cœur de la France-Afrique. Le cœur de la France-Afrique, c'était la tête pensante, c'est le président ivoirien Oufuette Boigny. Et pour tout ce qui était les opérations spéciales, les opérations secrètes, ça se faisait à partir du Gabon. En particulier, quand toute l'affaire de la guerre au Biafra, où la France a soutenu le séparatisme biafrais, ça se faisait à partir du Gabon pour toutes les opérations secrètes. Et toutes les turpitudes de la France en Afrique, ça se faisait à partir du Gabon. Et le Cameroun a toujours été en marge.
Et est-ce que vous pensez vraiment, Antoine Glaser, que Paris peut avoir son dernier mot, par rapport à la crise qui secoue les deux provinces anglophones du pays depuis fin 2016?
Non, on surestime totalement la capacité de la France à intervenir sur tous les plans, en dehors finalement de son intervention dans le Sahel. C'est très difficile maintenant, la France, l'Afrique s'est totalement mondialisée. On voit bien que toutes les négociations en ce qui concernait l'État camerounais, le gouvernement camerounais, les séparatistes anglophones, ça se faisait au Kenya ou ça se fait absolument ailleurs. On a vu d'ailleurs que même en Centrafrique, vous avez bien vu que finalement ce sont quand même les Russes qui ont organisé des négociations entre les différents partie centrafricaine à Khartoum, et on voit que la France, maintenant, son ancien précaré lui échappe. Simplement, ce qui gêne beaucoup les présidents africains, c'est vrai que la France a toujours, bien sûr, un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, et quand il s'agit des anciennes colonies francophones, à ce moment-là, anciennes colonies françaises, c'est vrai que la tendance générale du reste de la communauté internationale, c'est toujours demander à Paris, qu'est-ce que vous pensez du Cameroun, qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire, etc. Mais tout ça est en train de s'estomper avec une Afrique qui se mondialise et des chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente et qui sont agacés des déclarations de Paris, mais c'est pas à Paris que les choses se passent.
Et que reste-t-il du précaré français dans la région?
Je pense qu'en fait, il reste, c'est vrai qu'il y a toujours le franc CFA. C'est vrai qu'on dit toujours que la présence de l'armée française dans le Sahel sert un peu de cache-misère à une présence française globalement déshérente. Ça dépend de quoi l'on parle. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a une très forte diaspora encore africaine en France. C'est vrai que la position de Paris compte encore au niveau de la communauté internationale, mais sur le plan réel, économique, politique, financier, c'est de moins en moins important. Comme vous voyez, le Sénégal, qui était vraiment là, avec Saint-Louis, qui était une des premières colonies de la France en Afrique, vous voyez bien que le président Macky Sall, il y a 15 jours, inaugurait toutes ses infrastructures avec la Turquie, alors que la France a des relations compliquées avec la Turquie actuellement. Et vous avez bien vu les Émirats arabes unis de plus en plus extrêmement présents dans l'ensemble de cette zone sahélo-saharienne. Et comment, même si c'est la France qui est intervenue en Libye, ce qui se passe en Libye lui échappe totalement, et elle en est d'ailleurs fortement agacée.
La France soutient beaucoup de régimes dictatoriaux comme celui d'Idriss Déby au Tchad, mais elle s'accommode aussi avec certains opposants. Or, Maurice Kamto, l'opposant camerounais, a eu de la peine à être reçu à Paris lors de sa tournée européenne. Comment est-ce que vous l'expliquez?
C'est toujours pareil. Ça veut dire, c'est un signe de faiblesse de la France. Ça veut dire, quand la France était dans une position de force, elle aurait dû, c'était à ce moment-là qu'il fallait soutenir les sociétés civiles africaines. Tout le monde sait que la démocratie, c'est pas au moment des élections, parce que les chefs d'État, maintenant, Il y a un professeur d'un constitutionnaliste qui m'a dit maintenant, quand je parle aux chefs d'État africains, ils connaissent mieux la constitution que les constitutions que moi. Ils savent encore mieux les organiser, les instrumentaliser. Et en fait, le problème de l'Afrique sont les contre-pouvoirs. C'est ce qui se passe entre deux élections. C'est pas au moment de l'élection où tout est verrouillé, où les chefs d'État contrôlent notamment des commissions nationales soi-disant indépendantes. Donc c'est vraiment les contre-pouvoirs. Et comme la France n'a pas soutenu les sociétés civiles, comme elle est maintenant en position de faiblesse, alors à ce moment-là, elle se raccroche à la stabilité, au président en place, et elle n'est plus en position de pouvoir jouer un rôle réellement d'évolution vers la démocratie dans ces pays.
Donc au total, Paris ne peut jouer aucun rôle pour éventuellement pousser Paul Biya à la sortie.
À mon avis, elle a un rôle, la France a une des capacités beaucoup moins importantes que souvent ce que des diasporas imaginent. Je veux dire, c'est pas la France qui décide de ce qui se passe, de l'ensemble de ce qui va se passer au Cameroun dans les prochaines années. D'abord, ce sont les Camerounais. Ensuite, c'est vraiment l'évolution dans l'ensemble des pays voisins. Et c'est pas la France qui contrôle tout ce qui se passe, même au niveau du FMI et de la Banque mondiale.
Antoine Glaser, merci beaucoup.
Merci à vous.